L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Ah mais attends, on est le premier jeudi du mois.
Ah oui, c'est l'actuel.
L'émission féministe pour il, elle et elle.
This time, we will do it by ourselves.
Les luttes sont toujours des luttes simultanées.
L'acte de procréation est un acte de liberté.
Non una, dimeno, pas une de moins.
Que l'avorto sea legal.
Ava el patriarca.
Masamanaye, aumaye.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actuel. Et oui, le premier jeudi du mois, notre créneau consacré à l'actualité sera tout particulièrement consacré au féminisme, des questions de genre, de sexualité, d'égalité et de lutte qu'on aura la chance de décortiquer avec Carole du Planning Familial de Millau. Bonjour Carole.
Bonjour.
Bonjour à Nico à la technique aussi. Et cette première émission sera consacrée à la thématique des femmes et des mobilités, des freins à la mobilité que les femmes rencontrent le plus souvent que les hommes, le vélo comme outil d'émancipation, les rapports de domination associés à l'usage de la voiture et beaucoup d'autres.
Ok, nous allons aborder ces questions avec des invités et des témoignages et nous souhaitons la bienvenue à Emmanuel Arrojo, de l'association Innovation Véhicule Doux. Bonjour.
Bonjour.
InVD organise à Millau une journée autour des femmes et mobilité le 15 octobre. Nous allons en parler en cette première partie d'émission. Et en deuxième partie, on va aborder la question de la voiture et du stop en rapport au genre. Et on entendra à ce propos le témoignage d'Alex, mais aussi Clara Steyer, chargée de mission mobilité au parc naturel régional des Grands Causses. Il y aura aussi le récit de la première femme ayant fait le tour du monde à vélo, chronique littéraire réalisée par Enora. Mais tout de suite, c'est la revue de presse féministe avec Sophia.
Radio Larzac vous présente la revue de presse, des pages aux voix.
I worry the sun.
Et oui, c'est parti pour le tour du monde des actualités sur les droits des femmes et des minorités de genre, les luttes et les féminismes. Je voudrais commencer par un sujet qui est revenu en force dans l'actualité ces derniers temps, c'est le droit à l'avortement. Mercredi dernier, le 28 septembre, on célébrait la journée internationale de l'avortement en sécurité. D'ailleurs, le planning familial de Millau a proposé des sondes d'information et d'écoute de documentaires, c'est ça ?
Tout à fait, on a fait une après-midi dans chaque antenne d'écoute de podcast. Et voilà, et ça a plutôt fédéré autour du bénévolat, c'était assez chouette. Et on a écouté ensemble et pris des goûters et discuté de toutes ces questions-là.
Donc le droit à l'avortement, c'était la journée internationale de l'avortement en sécurité, mais il n'y avait pas grand-chose à fêter en cette journée. Le quotidien italien Il Manifesto, par exemple, il fait un commentaire suite à la victoire de l'extrême droite aux élections politiques en Italie et il lance l'alerte, et je le cite, « Les politiques reproductives ne sont pas acquises dans le monde entier. Ce 15 septembre, par exemple, comme le rappelle toujours le quotidien, le gouvernement hongrois a voté une loi qui oblige le personnel médical à fournir aux femmes souhaitant avorter l'épreuve et, je cite, « claire et identifiable des fonctions vitales du fœtus », c'est-à-dire en faisant écouter aux femmes qui souhaitent avorter le battement cardiaque de l'embryon. C'est une forme de violence extrême qui a poussé les femmes hongroises et européennes à manifester. Un millier de personnes sont descendues dans les rues à Paris et dans plusieurs dans d'autres villes en France comme Toulouse, Lyon et Bordeaux, comme le relate le site d'information Euronews. Euronews cite également les nombreuses manifestations qui ont eu lieu en Italie. Le but des manifestantes et manifestants dans ce pays, c'est de lancer un message clair à celle qui sera très probablement élue première ministre, Giorgia Meloni, et lancer un message aussi à son parti d'extrême droite. Les féministes ne toléreront pas des modifications ou de reculs de la loi 194 du 1978, celle qui assure l'accès à l'avortement. En parlant de lutte et de manifestation, on ne peut que revenir sur la révolte iranienne suite à la mort de Mahsa Jina Amini, une jeune femme de 22 ans. La newsletter Impact des Glorieuses rappelle les faits. Macha s'est rendue à Téhéran avec sa famille le 13 septembre où elle a été arrêtée par la police de Meurs parce qu'elle ne portait pas son hijab conformément aux lois du pays. Elle a été tabassée et emmenée dans un centre de détention où elle a été vue s'effondrer sur le sol sur une caméra de surveillance et elle est décédée 3 jours après à l'hôpital. Depuis ce meurtre d'État, comme le définit une tribune publiée sur Le Monde, des manifestations ont lieu dans tout le pays et des manifestations de solidarité avec le peuple iranien s'organisent un peu partout en Europe et dans le monde. Selon l'agence de presse Reuters, ceci est la plus grande opposition au régime théocratique de l'Iran qui dure depuis 40 ans et le slogan des manifestantes et manifestants est « Jen Jeyan Azadi », ce qui signifie « Femme, vie, liberté ». Le quotidien Libération dresse un bilan de la répression de la révolte de la part des autorités iraniennes qui reconnaissent avoir arrêté au moins 1200 personnes depuis le 16 septembre et l'organisation Iran Human Rights, qui est basée en Norvège, fait état sur son site internet d'un bilan d'au moins 154 morts, dont 9 sont très certainement des personnes mineures. Et je tenais à rappeler dans ce contexte que plusieurs journalistes aussi sont visés par des interpellations et des arrestations en Iran, comme l'écrit toujours Libération. Pour en citer une, c'est la journaliste Elahe Mohammadi, qui avait couvert l'enterrement de Mahsa Amini et qui a été arrêtée d'après son avocat Mohammad Ali Kami Frouzi. Et comme on est dans un média indépendant, je tiens à exprimer notre solidarité non seulement au peuple iranien, mais aussi aux journalistes sur le terrain. Et du coup, on peut continuer, enchaîner avec la question du jour et avec Emmanuel de l'association INVD.
Oui, merci Sophia pour cette revue de presse, elle était trop chouette. Désolée, j'étais pas attentive au début. Alors on passe maintenant à notre invité, donc Emmanuel Arojo. Tu fais partie de l'association INVD, Innovation Véhicule Doux, qui organise ce samedi 15 octobre la journée En Avant Simone. Le but c'est de célébrer la journée internationale des femmes rurales et de promouvoir des mobilités alternatives, ce dont l'association INVD s'occupe. Toute la journée, à partir de 14h, il y aura des stands d'information, des tables rondes et pour finir, la projection du film « Les Échappées » sur des femmes qui pédalent et qui ouvrent la voie.
Et donc, pour commencer, pourquoi tu penses, Emmanuel, qu'il est nécessaire d'aborder cette question de mobilité sous un angle féministe ?
Alors, déjà, merci de m'avoir invitée pour parler de ce sujet. Déjà parce qu'en fait, les femmes, notamment en milieu rural, ont la double peine. En fait, d'un côté, le fait qu'on soit en milieu rural et donc il y a tout plein de questions qui se posent par rapport aux mobilités, l'éloignement des services publics, etc. Et en fait, on n'a pas forcément conscience du fait que les femmes ont une mobilité qui n'est pas forcément équivalente à celle des hommes, alors que les politiques de transport sont faites pour les hommes. Par et pour les hommes, c'est en grande majorité des hommes qui travaillent dans les transports et qui mettent en place ces politiques et qui ont une vision en fait où souvent le transport ça va être domicile, travail, travail, domicile, alors que les trajets des femmes en fait vont être vraiment différents. Elles vont avoir une mobilité particulière et tout plein de problématiques en fait, même en termes de sécurité, en termes d'accessibilité qui vont se poser différemment en fait, du fait que ce sont des femmes.
Dans le communiqué pour annoncer la journée du 15 octobre, vous écrivez que des études scientifiques ont montré que les trajets des femmes sont plus complexes et multimodaux que ceux des hommes, car ce sont elles qui gèrent encore en large majorité les tâches de soins, comme les courses ou emmener les enfants à l'école. Peux-tu nous parler de ces études ? Quelles sont les conclusions que tu en tires ?
Oui, alors effectivement, en fait, il y a encore 75% du travail domestique qui est effectué par les femmes. Encore là, à notre époque. Hein. Ouais. Donc on n'est pas du tout à l'égalité là-dessus. Et donc les femmes vont s'occuper des courses, des enfants, des tâches ménagères, des soins aux personnes âgées, aux personnes malades. Et donc ça va entraîner des transports, une mobilité vraiment différente avec effectivement des trajets qui vont être plus complexes, multimodaux, parce que quand on doit s'arrêter pour aller faire des courses, déposer le petit à la crèche, aller chez le médecin, aller à l'EHPAD, etc., c'est très différent d'une mobilité où on va juste maison, travail, travail, maison. Et donc c'est plus complexe et c'est aussi plus contraint parce qu'il y a également les sacs de course à transporter. Il y a le siège spécial pour l'enfant dans la voiture. Oui. Il y a la poussette. Enfin, tout ce genre de choses en fait qui font une mobilité très différente.
Et donc votre association InVD s'occupe de mobilité douce, mobilité alternative, et donc on pense forcément au vélo. Et donc en rapport aux femmes, j'ai trouvé en préparant cette émission une citation d'une féministe de la moitié du 19e siècle, Suzanne Burnell Anthony, qui disait que la bicyclette a fait plus pour l'émancipation des femmes que n'importe quelle autre chose au monde. Donc effectivement, le vélo peut être un outil d'émancipation, de protection aussi, par exemple, si on pense à l'harcèlement de rue. Est-ce que pour toi, il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut associer l'émancipation au vélo, l'émancipation des femmes surtout ?
Oui, parce qu'en fait, les contraintes qu'il y a sur les femmes aussi en termes de mobilité, ce sont aussi des contraintes économiques. Le permis voiture, elles sont moins nombreuses que les hommes. Il y a 10% de moins de femmes que d'hommes qui ont le permis voiture, par exemple. Le permis est coûteux. Un véhicule, c'est coûteux. L'entretien aussi du véhicule est coûteux. Et dans plein de pays du monde, et même aussi en France, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se payer ça. Souvent, quand il y a une voiture dans un foyer hétérosexuel, ça va être l'homme qui va majoritairement encore aujourd'hui utiliser ce véhicule, et historiquement les femmes ont été pas mal cantonnées au foyer, et donc la bicyclette, le vélo a été un moyen finalement de sortir de ça avec un intérêt économique, parce que voilà, c'est pas très cher un vélo, l'entretien non plus, aussi pour tout ce qui est mécanique qui peut freiner aussi, parce que c'est encore un milieu qui est majoritairement masculin, où les femmes se sentent pas forcément légitimes parce qu'on leur fait bien comprendre que c'est pas leur place, qu'elles sont pas compétentes, etc. Ben, elles vont se sentir aussi plus à l'aise avec un vélo qu'avec une voiture. Voilà, il y a plein de raisons qui font que c'est un outil d'émancipation, et pour autant, même encore aujourd'hui, les pistes cyclables ne sont pas développées. Elles sont encore pensées, en fait, pour une mobilité masculine. C'est plutôt, par exemple, bon là, je prends l'exemple de Paris, mais parce que j'ai vu une étude sur ça qui montrait que les pistes cyclables sont faites pour les vélo-taffeurs. Donc, c'est-à-dire, c'est les hommes, en fait, qui vont à toute vitesse pour aller au boulot et tout. Et en fait, elles ne sont pas du tout adaptées aux personnes qui sont avec les enfants, qui vont à une vitesse plus réduite, qui sont encombrées de différentes... d'une charrette là, enfin je sais pas comment dire, d'une remorque ou de choses comme ça pour trimballer des choses. Et donc en fait, nous, InVD, on veut repenser la mobilité en milieu rural, certes, mais on veut que ce soit inclusif aussi pour toutes et tous, et on veut pas reproduire les travers d'une mobilité qui est pas adaptée à tout le monde. Donc on veut vraiment prendre ça en compte dès maintenant, en fait, au moment où on est en train d'envisager, d'étudier des alternatives et de développer ça. On veut que ça puisse s'adresser vraiment à tout le monde, femmes, enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Et c'est toutes ces questions-là qu'on a envie de poser le 15 octobre.
Ok, super. Et je pourrais revenir sur la mécanique vite fait. En fait, il y a un gang de mécaniciennes un peu en Occitanie qui font des rencontres et tout ça, et qui aussi invitent à former toutes les femmes qui ont envie, ou les personnes trans, à la mécanique pour se libérer de la dépendance aux hommes pour ces tâches-là. Mm. Voilà, si ça intéresse les gens.
Oui, merci de le dire. D'ailleurs, à l'événement En avant Simone, il y aura un atelier de réparation de vélo pour adultes et enfants.
Ok.
Pour s'initier.
Et moi, je voulais ajouter, justement, moi, je me déplace beaucoup. On a un vélo et une carriole pour amener les enfants à l'école et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas adapté, quoi. Dès qu'on est un peu large, pour passer entre des barrières ou des choses comme ça, c'est pas facile.
Ouais.
Voilà, je confirme.
Oui, c'est aussi des infrastructures, en fait, qui sont à repenser.
Et d'ailleurs, toujours à propos de ça, j'ai lu aussi que... En fait, quand les villes qui font des choix de transport, de mobilité, qui encouragent les femmes à rouler à vélo, en fait, c'est le taux de cyclisme dans son ensemble qui augmente. Donc, ça veut dire que tout le monde, en fait, se joint un peu à ces femmes qui commencent à faire le plus souvent du vélo. Donc, pour toi, c'est lié aussi à ces questions-là justement d'adaptation de l'espace à différents types de vélos, différents types de mobilité.
Oui, voilà, tout à fait. Oui, c'est plus inclusif, effectivement, et du coup, ça permet à tout le monde de s'y retrouver. Et je parle aussi de multimodalité, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est-à-dire, les trajets étant plus complexes, il va pas y avoir seulement le vélo, ça va être, on va mettre ensemble bout à bout du bus, du vélo, du train, du transport à la demande, du covoiturage, et en fait, finalement, c'est des trajets très loin de juste aller-retour en voiture, mais qui nécessitent aussi de se coordonner. Peut-être je me dévie un peu par rapport à la question, mais...
Non, mais c'est tout à fait ça, en fait.
Coordonner différents modes de transport.
Oui, et du coup, inciter aussi le transport en commun.
C'est ça, les transports publics, voilà, le covoiturage. Et puis, ça pose aussi la question de l'accessibilité des services publics, même dans nos campagnes. Il y a des initiatives, d'ailleurs, on va en parler lors de la table ronde en avant, Simone, pour l'accessibilité, l'accès à l'emploi, l'accès aux soins. Comment faire pour que ce ne soit pas forcément non plus aux femmes de se déplacer, mais que ça puisse venir à elles. Il y a des initiatives aussi dans ce sens-là qui existent, qu'on présentera. Donc c'est vraiment, en fait, ça change plein de choses dans la société de s'intéresser à ces questions-là et de vraiment les prendre en considération et y répondre. C'est aussi les questions de garde d'enfants, par exemple, de transport scolaire, parce que dans les petits villages, il n'y a pas des transports scolaires partout. Et c'est encore majoritairement les femmes qui vont emmener les enfants à l'école.
Tout à fait.
Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Carole, par rapport à ça ?
Non. J'ai juste une... Pour quand t'as un bébé, c'est l'enfer. Voilà.
Mmh. Ouais.
C'est juste un détail.
Oui, et du coup, en parlant aussi de milieux ruraux, on ajoute un peu un défi à tout cela, parce que justement, dans ce territoire, par exemple, l'utilisation de la voiture semble une évidence. Et du coup, pour les femmes et les minorités de genre ou les minorités en général, s'approprier d'autres moyens de locomotion, c'est un peu aussi combattre certaines idées reçues.
Oui, aussi, tout à fait. Et c'est sûr qu'en milieu rural, j'en ai parlé aussi depuis tout à l'heure, il y a des défis particuliers. Il y a plein de choses qui se développent en ville et les milieux ruraux sont encore, je trouve, un peu les absents des politiques de transport au niveau national. Parce qu'il y a les enjeux individuels de moi, comment je choisis de me déplacer. Mais voilà, je mets l'accent depuis tout à l'heure sur aussi les politiques publiques et tout, parce que je pense que c'est à toutes les échelles qu'il y a besoin que ce soit mis en place. Et en milieu rural, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et si on ne va pas regarder les réalités des chiffres et de l'isolement et des difficultés particulières aussi liées aux femmes, minorités de genre et des personnes qui ont des difficultés à se déplacer de base, et ben on passe à côté de quelque chose. Et c'est, à mon avis, ça fait une mobilité à deux vitesses, en fait. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Il y en a qui ont les routes pour se déplacer et les autres qui se débrouillent. Et après, on parle beaucoup du vélo, mais à INVD, on ne développe pas que le vélo, c'est tout type de mobilité alternative. Et donc,
c'était un peu la question qui suivait, parce que en fait, le vélo, c'est chouette, mais c'est vrai que ce n'est pas accessible à tous. On pense notamment aux personnes invalides. Du coup, quelles seraient les solutions pour une mobilité verte pour les personnes en situation d'invalidité?
Alors, il y a pour les personnes en situation d'invalidité et plus largement même un peu tout le monde, parce que c'est vrai que là, on est en milieu rural de montagne en plus.
Oui.
Donc, le vélo, quand on a les courses, les enfants et tout, même si on est en bonne santé physique, forme physique, c'est pas évident forcément. Donc, il y a toutes sortes de petits véhicules, donc vélo électrique. Après, nous, on travaille beaucoup sur les véhicules intermédiaires entre vélo et voiture, qu'on appelle des vélotos, qui sont des petits véhicules qui permettent d'aller à 45 km/h, qui ont une assistance électrique. On a une personne qui s'appelle Thierry Gouin qui travaille développer justement des transports, des modes de mobilité pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'est un petit peu tous les petits véhicules qu'on peut avoir. Et après, c'est comment les services publics mettent à disposition des transports à la demande. Ça se fait dans certaines communes. Comment on fait en sorte qu'il y ait de bonnes dessertes de transports publics un peu partout. Voilà, ça va être des choses comme ça. Le covoiturage, évidemment.
Et justement, quelle est un peu la situation dans ce territoire par rapport au transport en commun ? Tu en as un peu parlé, mais comment vous travaillez par exemple avec la communauté de communes pour développer ces solutions-là alternatives, de mobilité alternative ?
Alors, nous, on travaille à plusieurs niveaux. On travaille pour, développer des petits véhicules, essayer de trouver des solutions de transport innovantes localement. On travaille aussi pour essayer de promouvoir la nécessité en fait d'avoir des infrastructures qui fonctionnent bien, qui permettent d'être en sécurité, parce que le fait de pas se sentir en sécurité sur nos routes, c'est un gros frein pour les personnes pour changer de mobilité. Et donc de mettre en place des pistes cyclables. Donc on travaille avec le parc aussi des Grands Causses. On travaille je sais pas exactement avec la communauté de communes par rapport à cette question spécifique.
Oui, non, mais en général avec les autres instances de la ville.
Ouais, en fait on met en place des expérimentations de différents petits véhicules intermédiaires. On fait aussi des événements qu'on appelle « Une semaine sans ma voiture » qui sont proposés aux collectivités, mais aussi aux associations, aux entreprises, à qui veut, pour pendant une semaine en fait, essayer d'autres formes de mobilité et un peu entraîner une dynamique. En fait. Et on a fait ça par exemple à Saint-Isère, à Saint-Bosélie, dans ces villages-là. Et derrière, on a vu qu'il y avait un impact. En fait. D'ailleurs, c'est suivi par des chercheurs. On travaille en collaboration avec des chercheurs universitaires. Qui font des études pour regarder l'impact de ce genre d'événements qu'on fait. Et donc, dans ces cas-là, en fait, vraiment, on associe les communes, communautés de communes, ben voilà, un peu tout le monde autour de la table pour voir, pour faire un peu un diagnostic aussi de ce qui, comment ça se passe sur leur territoire, de ce qui peut être mis en place, des leviers d'action. On a un super outil maintenant qui s'appelle la fresque de la mobilité. Pour les personnes qui connaissent la fresque du climat, c'est similaire. En fait, c'est une espèce de jeu avec des cartes où on va aller apprendre, en fait, s'outiller. Sur ces questions-là et voir un petit peu quels sont les leviers d'action individuels et collectifs qui peuvent être mis en place. Et donc maintenant, on propose des fresques de la mobilité pour que les personnes puissent se rendre compte de ce qui peut être fait dans leur, dans leur collectivité, dans leur lieu de travail. On essaie de développer plein de choses comme ça pour vraiment que le changement soit quelque chose aussi de joyeux, en fait, et puis qu'on ait du plaisir à faire ça et qu'on puisse utiliser notre créativité et qu'on soit dans un élan... voilà, dynamique et que ce soit pas subi, mais choisi aussi, ce changement.
Et pour revenir un peu à la journée du 15 octobre,
ouais.
Vous organisez aussi quelque chose autour de l'espace public, par exemple une balade d'interprétation de l'espace public. Donc, est-ce que c'est un moyen pour analyser des zones plus dangereuses, pour voir la place des femmes dans l'espace public ? Comment ça va se passer ?
Oui, alors là, ça va, en fait, donc l'événement va avoir lieu au Créa, à Millau, à partir de 14h. Et donc, ce sera une petite balade aux alentours du Créa, en fait, dans le centre-ville, un peu de Millau, pour aller regarder, quand on est piéton, par exemple, à quoi faire attention par rapport aux questions de sécurité aussi, comment on peut se comporter pour être visible, pour être bien en sécurité. On va regarder un petit peu les espaces où on peut circuler avec un petit véhicule, avec un vélo, où passent les voitures, les piétons, avec les enfants, est-ce que l'espace est adapté ou pas. Et on va aussi regarder par rapport aux questions de genre, en fait, s'il y a des freins, s'il y a des zones qui sont plus favorables ou pas au passé avec une poussette ou pas, enfin voilà, ce genre de choses. Après, c'est pas moi qui vais animer cette balade-là exactement, mais l'idée, c'est ça.
Est-ce qu'il y a un observatoire aussi des zones où il y a plus de harcèlement de rue ou des ruelles qui sont évitées par les femmes ou les personnes trans parce qu'elles sont moins éclairées et que du coup, elles se sentent plus en insécurité ?
Alors, ce serait possible de faire ça. Là, lors de cet atelier, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, parce que ça va être assez court quand même, cette petite balade. Mais après, à terme, en fait, on est intéressé peut-être de développer ça. Notamment, on a vu, je cherche le nom, ça s'appelle balade exploratoire. Quelque chose qui est mis en place dans je ne sais plus quelle commune, mais ce n'est pas en territoire rural, c'est en ville. Mais on trouvait que c'était intéressant. C'est des balades, en fait, où les personnes vont, justement, les femmes, vont en non-mixité dans l'espace public pour essayer de faire un peu cette analyse-là, cette lecture de l'espace et de regarder comment on peut faire pour plus se sentir en sécurité à tel endroit, qu'est-ce qu'on peut proposer aux élus aussi qui mettent en place des choses pour qu'on se sente mieux, ce genre de choses.
Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour un peu de cette journée qui nous attend donc le 15 octobre au Créa. Et je te remercie, Emmanuel. Donc, je le rappelle, tu es de l'association Innovation Véhicules Doux. Et donc, on vous invite à vous rendre au Créa le 15 octobre à Millau pour l'événement En avant Simone. Et je rappelle aussi que, donc, comme on l'a dit, il y aura des ateliers, des animations, des tables rondes et la projection du film Les Échappés.
Au cinéma de Millau à 18h30 en présence de deux protagonistes du film et ça file la patate, donc venez toute la journée à l'événement, on va bien s'amuser et je crois qu'il y a vraiment besoin d'ouvrir le sujet, d'ouvrir le débat sur ce sujet-là sur notre territoire.
Merci.
Ouais, merci. Et du coup, Carole, tu nous as préparé une musique.
Tout à fait. Alors, on va écouter Space Lady, qui est une joueuse de synthé des années. Elle a commencé dans les années 60 elle a quasiment joué toute sa vie. Elle joue encore dans les rues de San Francisco. Et voilà, et je l'aime bien parce que ça, quand on parle femmes et mobilité, ben en fait la rue c'est quelque chose de chouette quand on veut se déplacer d'un point A à un point B et dans laquelle on s'adapte, mais la vivre et en faire son lieu de spectacle, c'est fort en fait, ça demande beaucoup de courage et en plus sa musique elle est vraiment géniale, voilà, je vous laisse découvrir.
All systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to burn. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, send me up a drink. Joke's major turn. The count goes on. 4, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Earth feels drifting on. Floating weightless, calling
calling.
revoilà, nous sommes toujours en direct sur Radio Larzac et je suis toujours avec Carole du Planning Familial 12 pour l'actuel. On poursuit donc nos discussions sur les femmes et les mobilités. Et en cette deuxième partie, on voudrait aborder plus la question de la voiture comme moyen de domination. Donc la voiture est toujours associée à une idée de virilité et donc je m'adresse à toi Carole, pourquoi d'après toi ?
Alors bah, moi c'est marrant parce que je l'associe rarement à ça, mais bon je l'associe peut-être à des choses qui sont synonymes, je l'associe plutôt à la puissance et en fait en ce moment je suis des cours d'autodéfense féministe et on se pose la question qu'est-ce que dans notre quotidien peut être utilisé comme arme des hommes sur les femmes. Et en fait, la question de la voiture revient assez souvent. Et parce que, en fait, je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes déjà de se retrouver dans une voiture avec quelqu'un qu'on aime, ou qu'on aime peut-être moins, mais qui utilise la voiture comme moyen de pression pour faire peur. Donc des accélérations, conduire dangereusement, tout en hurlant. Donc voilà, donc il y a cet aspect arme que je trouve assez et puis tout à fait le fait qu'on peut renverser quand même quelqu'un avec une voiture et le truc de sentiment de puissance en fait quand on peut monter à 210 sur une ligne droite d'une petite route quand on sait qu'il y a pas de radar, ben ça quand même ça à mon avis éveille une espèce de sentiment d'impunité et qui peut du coup être associé à la virilité.
Oui, et d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis d'accélérer et de conduire de manière imprudente, j'ai lu que les hommes représentent 84% des responsables présumés d'accidents mortels sur les routes. Donc, a priori, ce sont toujours les hommes qui conduisent de manière plus dangereuse. Et tu parlais aussi de, du coup d'être en voiture avec quelqu'un et on commence à se sentir mal à l'aise et ça peut faire penser à la pratique du stop. Donc voilà, quand la personne à volant est un homme et la personne passagère est une femme, il peut y avoir des propositions déplacées. Je sais que tu as fait du stop aussi. Donc.
En fait, moi, je suis née en milieu rural et j'avais un père très dur et qui m'empêchait de sortir. Donc, j'ai beaucoup fait le mur, j'ai beaucoup fait du stop à partir de 15 ans. Du coup, j'ai une expérience assez approfondie de la question. Et effectivement, en fait, quand on est en voiture, quand on a été pris en stop, on est vraiment très vulnérable. Et donc d'abord, déjà parce qu'on ne conduit pas et qu'on est dans un habitacle et que personne ne peut nous aider, mais aussi parce que ça réveille chez des gens qui, à mon avis, ne sont pas forcément agresseurs à la base, mais le fait de sentir la personne vulnérable les amène dans des endroits où ils ne seraient pas allés. Donc, quand c'est une proposition douce, certes peut-être salace, mais qui va juste, qui se propose une fois parce qu'on tente, je trouve que c'est chiant, mais c'est pas très grave, tant que le nom qui suit est entendu. Et bon, ou alors l'absence de nom, la personne qui se décompose à côté de vous, en fait, elle n'a pas envie. Et donc, j'ai vécu énormément de tentatives d'agression que j'ai réussi à avorter, on va dire ça comme ça. Mais des trucs très dangereux où, pour le coup, les personnes m'ont jeté et insulté de la voiture parce que j'avais réussi à dire non dans des endroits hyper dangereux, quoi, même sur une autoroute ou en pleine nuit, quelque part. Donc voilà, oui, c'est encore un lieu, le stop, qui est ultra dangereux. Je trouve, quand t'es une femme, mais quand t'es un homme aussi, j'ai des expériences d'hommes qui ont failli se faire agresser sexuellement aussi en stop.
Et à ce propos, on va écouter également le témoignage d'Alex qu'elle a enregistré pour nous.
En fait, j'ai commencé à faire du stop assez jeune, adolescente. J'habitais à la montagne. À partir du lycée, j'avais 45 minutes de route pour rejoindre mon habitation au lycée. Évidemment, souvent, je ratais le car. Quoi souvent ? Parfois, je ratais le car qui passait très tôt, qui nous amenait au lycée. Il fallait attendre dans la cour après le début des cours. Donc voilà, ça m'arrivait de rater le car scolaire. Du coup, je descendais en stop. Je leur demandais de m'accompagner en voiture au village d'après. En fait, assez vite, j'ai trouvé ça assez désagréable, assez pesant. Assez vite, j'ai arrêté. Je crois que je préférais ne pas aller en cours après. Parce que c'était quand même régulièrement des choses un peu lourdes, des propositions pas très nettes, une ambiance assez pesante autour de propositions sexuelles. Et moi, en fait, je comprenais pas pourquoi. Voilà, donc après, j'ai arrêté de faire du stop. Depuis quelque temps, je pratique beaucoup le covoiturage. Et en fait, là, je constate que c'est complètement autre chose. Alors, est-ce que c'est parce que on paye et que du coup, on n'est pas en situation de devoir quelque chose à la personne qui conduit, qui a le moteur entre les mains? Parce que peut-être que je me suis dit ça aussi, que c'est parce qu'ils avaient le moteur entre les mains, le moteur qu'on peut appeler aussi désir. Mais en fait, à partir du moment que c'est du covoiturage et qu'on est d'égal à égal parce que peut-être on paye et que donc nous aussi, on propose quelque chose en échange, eh ben c'est pas du tout la même relation qui s'installe dans la voiture. Quand on fait du stop, les personnes qui conduisent ont l'impression qu'on leur doit quelque chose, ou est-ce qu'ils ont l'impression qu'on est en situation de fragilité, ou je sais pas. En tous les cas, ça n'a rien à voir. Et je fais toujours pas de stop.
Oui, donc c'était le témoignage d'Alex qui parle de covoiturage et du stop. Et à ce propos, il existe une solution qui est en place à Aveyron, c'est le réseau Pouce. Est-ce que tu le connais, Carole ?
Eh ben non, malheureusement, j'ai tellement l'habitude d'être autonome que je ne le connais pas.
Bah, du coup, c'est une forme de stop solidaire entre voisins et qui est mise en place par le Parc naturel régional des Grands Causses. Et à ce propos, donc, on a interviewé Clara Steyer, qui est chargée de mobilité au parc, et on l'écoute tout de suite. Nous sommes avec Clara Steyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc chargée de mission mobilité au Parc naturel régional des Grands Causses à Millau.
Oui.
Et le parc a fait appel il y a quelques années à la coopérative Mobicop pour mettre en place le réseau Pouce. C'est un système de covoiturage entre voisins. Donc le principe est simple, il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site du réseau Pouce ou à la mairie pour voir sur l'application les conducteurs disponibles pour le trajet quand on veut parcourir un stop et les attendre à un panneau réseau Pouce qui sont un peu dispersés sur le territoire. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quel est le bilan sur ce territoire pour le dispositif réseau Pouce à 5 ans, si je ne me trompe pas, de sa mise en place?
Oui, même un peu plus. En 2015, en fait, les premières expérimentations ont commencé sur le Saint-Africain. Et les années qui ont suivi, en fait, le dispositif s'est étendu à d'autres communes. Aujourd'hui, on a 36 communes qui sont partenaires du dispositif et à peu près 165 arrêts sur le pouce, donc les fameux panneaux, les panneaux verts avec le pouce levé qu'on voit un peu dispatchés sur le territoire. Et aujourd'hui, on a plus de 400 inscrits. Ces inscrits sont surtout inscrits en fait au début, au moment du lancement, les premières années du dispositif. Et c'est vrai que ces dernières années, avec la pandémie, ça a été beaucoup plus compliqué d'encourager les gens au covoiturage et à l'autostop pour des raisons évidentes. Mais voilà, du coup, le programme aujourd'hui, il a un peu été en hibernation pendant les années de pandémie. Mais l'idée là, c'est de le relancer. Voilà, le plus évidemment il y a d'inscrits, le plus ça marche. Donc voilà, l'idée c'est de continuer à le développer.
Et donc Réseau Pouce naît pour encourager le covoiturage, donc offrir une solution de mobilité gratuite ou presque gratuite aux habitants et habitantes de zones rurales, mais aussi pour réduire l'usage de la voiture individuelle et pour mettre les passagers et les passagères en situation de sécurité. Donc est-ce que vous avez constaté des différences de genre par rapport à l'intérêt de ce dispositif? Est-ce que les femmes sont plus intéressées que les hommes?
Alors, on n'a pas de données spécifiques au genre, mais ce qui est sûr, c'est que comme on est sur un dispositif qui a pour but de donner confiance dans la pratique de l'autostop et de séréniser un peu la pratique, on est sur des publics cibles très variés, et notamment des publics qui ne voudraient pas faire de l'autostop sans ce dispositif, qui permet une reconnaissance mutuelle entre le passager et le conducteur. Donc voilà, on peut imaginer, même si on n'a pas de chiffres vraiment précis aujourd'hui, qu'on est sur des publics qui sont pour qui en tout cas Réseau Pouce facilite cette pratique.
Et aussi, la voiture, parfois, est perçue comme quelque chose associé à la virilité. Donc, est-ce que là, vous êtes posé cette question-là? Est-ce que vous avez constaté, je sais que vous avez dit du coup que vous n'avez pas de données, mais peut-être qu'il y a moins de femmes chauffeuses et plutôt d'hommes?
Alors non, c'est plutôt l'inverse. De manière générale, les gens qui s'inscrivent à Réseau Pouce veulent être conducteurs. Et c'est beaucoup plus difficile pour la plupart des gens de se mettre dans la position du passager, où ils sont plus dans une position de vulnérabilité. Et c'est là où, en tout cas, il y a la perception d'une prise de risque. Alors que quand on est conducteur, bon, déjà, on peut choisir hein, si on s'arrête ou pas. D'ailleurs, quand on est passager, c'est pareil. On peut s'arrêter ou on peut monter dans la voiture ou pas. Mais globalement, sur les 400 inscrits, il y a une majorité de personnes qui se sont proposées pour être conducteurs, sachant qu'on peut être soit conducteur, soit passager, soit les deux. Évidemment, on n'est pas
figé voilà, exactement. Dans les rôles. Et donc, justement, pour mettre en sécurité les passagers et les passagères, et pour faire aussi une action de sensibilisation, parce que je pense que c'est un peu compliqué de faire changer les mœurs par rapport à l'usage de la voiture, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, donc, on a fait cette grande campagne d'inscription au début. C'est vrai qu'on essaie de communiquer sur le programme. Et là, récemment, ce qui est super positif, c'est qu'on a un programme qui évolue. Donc, vous avez parlé de covoiturage et d'autostop. C'est vrai que c'est un peu ambigu, en fait, cette notion. Le dispositif, à la base, c'était que de l'autostop presque spontané, en fait. L'application n'existait pas. Il s'agissait juste de se rendre à un arrêt sur le pouce avec un panneau destination et d'attendre que quelqu'un s'arrête. Aujourd'hui, on a une fusion en fait entre Mobicop et Réseau Pouce, qui sont deux coopératives, et les outils de Réseau Pouce, l'application, le site internet, donnent accès aux utilisateurs à une plateforme de covoiturage, comme voilà, les grands opérateurs qu'on connaît, que je ne nommerai pas, mais avec la possibilité de programmer des trajets, de se mettre en relation avec un passager ou un conducteur, même de payer via les outils informatiques, sachant que là, il n'y a pas de commission prise par l'opérateur, contrairement aux plus gros opérateurs. Voilà, je ne sais plus si j'ai répondu à la question. Je crois que votre question, c'était aussi comment
vous faites de la sensibilisation en fait à ce mode alternatif de mobilité.
Ouais. Alors nous, au parc, on a Réseau Pouce, c'est un des services qu'on propose. On a un peu un bouquet de solutions alternatives à la voiture individuelle. Il y a évidemment les transports collectifs. On a un service d'autopartage sur le territoire aussi. On fait des prêts de vélos électriques. Voilà, des formations à l'éco-conduite. Donc on voit ça un peu comme un panel de solutions. Les gens peuvent choisir, combiner les modes aussi, évidemment, parce qu'on sait qu'il n'y a pas une solution qui va régler tous les problèmes de mobilité sur le territoire, sachant qu'on est dans un territoire rural, peu dense, avec du dénivelé. Donc, en fait, dans la promotion, en fait, on n'est jamais dans promouvoir un seul mode tout seul isolé, mais plutôt voilà l'ensemble des solutions qui sont à votre disposition. Il n'y en aura pas une qui va vous permettre de vous déplacer partout où vous avez besoin d'aller, mais voilà, elles sont à votre disposition, combinez-les. Voilà, donc il y a plein d'événements, de campagnes de sensibilisation auprès des scolaires, auprès, là on a fait une campagne auprès des hôpitaux, donc il y a plein de façons d'animer et de promouvoir, mais toujours dans l'ensemble des offres qui existent en fait.
Et pour revenir un peu à la sécurité des passagers et passagères, vous avez une charte, donc les utilisateurs et utilisatrices s'engagent à respecter. Et il n'y a pas dans cette charte mention spécifique concernant les femmes ou les publics de minorité. Mais le chauffeur s'engage à déposer les passagers dans un endroit sûr. Est-ce que vous avez pensé ou vous avez en tête d'ajouter des mentions spécifiques pour les publics de minorité de genre ou des minorités en général ?
Alors ça, c'est vrai que ce serait une question à poser plutôt à Réseau Pouce, parce que nous, donc on est adhérents au service, mais c'est eux qui créent ces documents-là. Mais en tout cas, je pense que ces documents, la charte notamment, ont été créés avec tous les publics en tête et les publics les plus vulnérables. Vous parlez de la charte, mais il y a aussi les moyens d'identification du passager et du conducteur, à savoir la carte d'adhérent. et le macaron qu'on appose sur le pare-brise et qui permettent de, voilà, de se reconnaître mutuellement. Au moment de l'inscription, il y a la signature de la charte, mais il y a aussi la pièce d'identité qu'on fournit. Et Réseau Pouce, l'équipe de Réseau Pouce va regarder l'inscription. Et voilà, c'est des gens, c'est des humains qui s'occupent de ça et pas des robots. Et c'est vrai que ça permet de rassurer aussi.
Bien sûr. Et pour élargir du coup aux mobilités alternatives en général, une autre problématique que la mobilité en général soulève, c'est la place des femmes et des minorités de genre ou des minorités ethniques et des personnes par exemple invalides dans l'espace public. Donc à votre avis, comment ces solutions solidaires ou alternatives comme le réseau Pouce peuvent apporter des solutions à ce problème-là?
Eh ben, on est sur des solutions déjà qui se veulent plus accessibles d'un point de vue économique, parce que voilà, conduire sa voiture tout seul, c'est un gouffre à argent. Et c'est vrai que la mobilité, quand on a une voiture individuelle, peut atteindre jusqu'à un tiers du budget des ménages. Il y a ce premier aspect simplement économique. Voilà, quand on propose des solutions moins chères, et ça permet d'être plus inclusif aussi. La plupart des solutions qu'on propose se reposent sur le concept de partage. De mutualiser les véhicules, les coûts et les moments passés ensemble. En fait, c'est que ce soit le covoiturage, les transports collectifs, l'autostop organisé, ce sont toujours des modes où les gens sont amenés à être ensemble, parfois à faire des compromis, à être à l'écoute les uns des autres. Donc voilà, c'est plutôt des modes qui s'adressent à tout public. On réfléchit aussi beaucoup aux personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup de... on est sur un territoire vieillissant avec des personnes qui vivent dans des villages isolés. Et voilà comment on met en place des solutions qui répondent à des besoins parfois très spécifiques qui ne sont pas du tout couverts par les solutions conventionnelles des transports en commun ou autres.
Merci beaucoup à Clara Steyer. Donc je le rappelle, vous êtes chargée de mission mobilité au parc naturel régional des Grands Causses. Et du coup, le réseau Pouce, vous pouvez vous renseigner sur le site internet.
Merci à vous.
Donc voilà, c'était Clara Steyer, comme on vient de l'entendre. Donc Carole, tu as découvert un peu ce réseau Pouce.
Tout à fait. Très bien. Mais j'avoue que je trouve ça hyper chouette comme initiative. Mais j'avoue que j'aime bien l'idée de faire du stop de manière plus libre, sans passer par un téléphone, internet et tout ça. Ça se perdure. Parce que, en fait, quand on parle de difficultés de mobilité, quand on est une femme, c'est aussi parfois en lien avec la pression économique que peut mettre un père ou un mari sur soi qui nous empêche de nous mobiliser, partir en vacances ou autre. Et en fait, le stop, c'est totalement gratuit, ça ne nécessite pas de matériel, puisque c'est notre corps, le matériel. Et je trouve ça chouette de le faire perdurer. Je peux donner quelques petites techniques d'autodéfense de stop. Un truc assez simple, c'est que si on a quand même un téléphone, on envoie le SMS de la plaque avant de monter dans la voiture. On peut le faire toujours, même si on sent bien la personne. Et une des règles d'or que j'ai appris aussi, c'est en fait faire confiance à son intuition. C'est quand on ne sent pas la personne, on lui dit « je suis désolée, soit on invente, je suis un bobard, finalement je ne vais plus dans la même direction. » Ou alors on peut être cash et dire « désolée, je ne le sens pas, je ne veux pas monter avec toi. » Et là, en général, ce qui est génial, c'est que l'intuition se confirme. La personne commence à vous insulter, à vouloir vous tuer, peut-être parfois. Du coup, voilà... plutôt aller par là. Et sinon aussi, il y a des super cours d'autodéfense féministe où on vous apprend à neutraliser une personne qui veut vous agresser. Ça peut aussi être des techniques et pour aller voir. Voilà.
Et ces cours d'autodéfense féministe se passent aussi sur Mio ?
Malheureusement non, mais j'espère les mettre en place bientôt.
Très bien, on va suivre ça. On approche doucement la fin de cette première actuelle, mais comme on a parlé de mobilité, on va parler d'un tour du monde. Et c'est Enora qui est une nouvelle chroniqueuse pour Radio Larzac et qui nous accompagnera en long de ces émissions grâce à des chroniques littéraires. Et donc, en accord avec la thématique d'aujourd'hui, elle a lu un récit d'un tour du monde, mais pas celui à 80 jours de Jules Verne, et on le découvre avec elle.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sophia. Pour cette première, je vais vous parler d'un livre qui combine à merveille féminisme et mobilité. C'est un ouvrage qui date de 1890. Il est assez peu connu, tout comme son autrice en France, Le Tour du Monde en 72 jours de Nelly Bly. Pour vous en parler, en fait, j'ai quatre très bonnes raisons. C'est que Nelly Bly est une femme, une autrice, qui fait le tour du monde seule. À savoir que Nelly Bly est une des pionnières du journalisme d'investigation. Par exemple, elle s'est faite interner dans un hôpital psychiatrique uniquement pour relayer la manière dont les femmes étaient traitées à son époque. Bref, juste une femme badass, quoi. Qui donc mieux que Nelly Bly pour réaliser ce défi fou de vouloir faire le tour du monde en moins de 80 jours, comme le fameux héros du roman de Jules Verne. Parce que pour celles et ceux qui savent compter, il me reste une très bonne raison de vous parler de cet ouvrage, et c'est qu'en fait je suis une véritable fan de Jules Verne. Je veux faire le tour du monde. Vraiment ? Fit mon rédacteur en chef en levant vers moi un regard pétillant de curiosité. Oui, et je veux le réaliser en moins de 80 jours. Je pense pouvoir battre Phileas Fogg, me donnerez-vous ma chance ? Quelle fut ma déception lorsqu'il m'annonça que la rédaction du New World nourrissait déjà ce projet mais avait l'intention d'envoyer un homme. Il me promit néanmoins qu'il me soutiendrait et nous nous rendîmes sans attendre dans le bureau du directeur commercial. Sa sentence tomba comme un couperet. Vous n'y arriverez jamais. Vous êtes une femme, vous aurez besoin d'un protecteur, et même si vous voyagez seule, il vous faudra emporter tant de bagages que cela vous ralentirait. En plus, vous parlez uniquement anglais. Rien ne sert d'en débattre. Seul un homme pour relever ce défi. Fort bien. Alors je partirai en même temps que lui, pour le compte d'un autre journal, et soyez sûr que je le battrai. Vous en seriez fort capable, marmonna-t-il. Heureusement pour le feu qui rugit dans ma gorge en lisant cet extrait, le journal a fini par accepter la requête de Nelly Bly au bout d'un an, au moment même où une autre journaliste pour un journal rival tentait de relever le même défi. Laquelle des deux est rentrée la première ? Pour ça, je vous laisse le découvrir vous-même. Mais sachez que j'ai été captivée par ce récit à la première personne d'une femme qui découvre le monde quasiment seule. Une femme pleine de ressources face au changement de planning des bateaux. Une femme épanouie quand elle rencontre Jules Verne en personne dans sa maison d'Amiens. Non mais, le rêve ultime pour moi. J'ai aussi été saisie par la réalité de son écriture. Évidemment, qui dit 19e siècle dit autre mentalité. Donc, certains passages sont assez durs à lire tant ils sont empreints du racisme systémique. Notamment quand Nelly Bly est en Asie. Ou qu'elle décide d'adopter un petit singe. Mais ceci pris en considération, on est face à un récit honnête de la mentalité d'une femme du 19e siècle, et même plus généralement, de plusieurs sociétés du 19e siècle. Ce qui veut aussi dire, et ça aussi à retenir, que Nelly Bly n'est pas une féministe au sens actuel du terme. Elle reste une femme de son époque, assujettie aux hommes. Mais par son tour du monde, elle prouve à quel point une femme peut être forte et déterminée, rusée, maligne. Autant qu'un homme, quoi. Qu'elle puisse voyager est le résultat d'une bataille. Sa réussite, la preuve qu'une femme gagne en puissance quand elle est libre de ses mouvements. Je ne peux que vous recommander Le Tour du Monde en 72 jours de cette badass de Nelly Bly, paru chez Point. D'ailleurs, comme il a été publié il y a plus de 50 ans, Le Tour du Monde en 72 jours est tombé dans le domaine public. Ce qui veut dire qu'il est très facilement accessible en ligne, en entier, que ce soit en français ou en anglais. Pour aller plus loin, je me permets de vous ajouter deux petites pépites sur l'empouvoirment des femmes grâce aux mobilités. Déjà, Ne m'oublie pas, d'Alix Garin, paru chez Le Lombard. C'est une BD touchante où une femme âgée reconquiert sa liberté, malgré la maladie d'Alzheimer, dans un road trip absolument improbable avec sa petite fille. Et Thelma et Louise de Ridley Scott, soit un film où les deux héroïnes reprennent leurs droits sur leurs envies, leurs époux, leur sexualité, leur futur, en partant en week-end en voiture, et plus rien ne va, après cette phrase. En tout cas, merci de m'avoir écouté. D'ici à la prochaine chronique livresque, je vous souhaite de belles découvertes, chers avanginateurs et avanginatrices.
Et voilà, on arrive vers la fin de cette émission, Carole.
Oui, tout à fait. Merci à Enora. En fait, j'ai trop envie de lire le livre maintenant.
Voilà. Bah oui, ça donne trop envie. Et c'est vrai que aussi Thelma & Louise, c'est un super film.
Ouais, c'est mon film préféré. je peux le regarder tous les week-ends, je pense. Par contre, ça me fait écho à un truc, parce qu'en fait, j'ai traversé l'Atlantique en stop. Donc, on peut aussi faire du stop voilier. Et donc, voilà. Et ça, effectivement, ça donne une liberté folle. Et je vous invite à essayer.
Pour une prochaine chronique, alors.
Tout est possible. Et du coup, on va remercier Nico à la technique. Merci beaucoup. Et puis, ben, on se remercie.
Oui, merci Carole d'être là. Nous, on se retrouve donc le mois prochain pour l'actuel. Et tout de suite, c'est le Flash Info de RFI, si je ne me trompe pas. Donc, bonne continuation à vous sur Radio Larzac.
Et à noter que l'émission est rediffusée demain, vendredi à 19h.
Exactement.
Et bientôt en podcast.
Merci Nico. Oh.